pensais qu'on allait philosopher un petit peu ce matin. Être ou ne pas être? To be or not to be? Esta et no esta? Je ne sais pas, là. Ouais. Je serais meilleur en allemand, peut-être. Hein? Non, mais c'est ça, c'est un temps de l'année, évidemment, là, qui est très attendu autant par les grands que les petits. Parce qu'on se pose la question être ou ne pas être. Dans le temps des fêtes, c'est être ou ne pas être un cadeau. Parce que, vous savez, c'est mieux d'être un cadeau que de ne pas en être un. Parce que si vous avez déjà entendu dire de vous, lui, c'est pas un cadeau. C'est pas préférable. Hein? Il y en a ici qui comprennent. Non, mais tu sais, même moi, d'un fois, je suis pas un cadeau non plus. Madame Arlène, je suis pas toujours un cadeau. Nos enfants, c'est pas toujours des cadeaux. Mais c'est des beaux cadeaux du Seigneur. Mais d'un fois, ce ne sont pas toujours des cadeaux. Et je pensais parler des cadeaux ce matin, mais pas n'importe quel cadeau. Parce que c'est certain, là, on a passé à travers la période des fêtes. Puis là, vous allez me dire, bien là, Stéphane, t'es en retard, là. Tu sais, les cadeaux, là, c'était là 2 semaines, là. 1 semaine et demie à peu près. Mais... Non, c'est pas celle-là, parce que là, vous allez dire, ouais, écoute, là, les histoires de Père Noël puis de lutin, là, c'est pas biblique, ça. C'est vrai. Le Père Noël puis les lutins, ça, c'est dans la Bible du marketing. Si vous suivez Marketing 101, la Bible, le Père Noël et puis les lutins, ça, c'est, ça a la cote. Ça fonctionne. Mais je vais vous parler de d'autres sortes de cadeaux. Mais avant d'aller à ces cadeaux-là, on va regarder un récit biblique qui parle de cadeaux. Et le mot qu'on retrouve le plus souvent dans la Bible qui réfère aux cadeaux est présent. Pas présent à la présence, mais des présents. On donne des cadeaux, des présents. On offre des présents. Il y avait autrefois même le terme étrennes. Des étrennes. Parce qu'on fêtait la Saint-Sylvestre autrefois au jour de l'an. Là, ça fait longtemps. Là. Moi, je n'ai pas connu ça, là. Mais à Saint-Sylvestre, c'était les étrennes du Nouvel An. Mais ça, Saint-Augustin, il a déclaré ça diabolique parce que les étrennes, ça faisait partie d'une tradition païenne de la religion romaine. Et puis, on offrait des présents à une divinité, Estrena, ou quelque chose comme ça, d'où le mot étrenne. Ça fait que ça a été... on a béni ça, mais ça a resté. Mais... Parlons de présents qui ont été offerts à une personne bien spéciale. Hein? Posez la question, est-ce que Jésus a eu des cadeaux? Hein? Jésus a eu des cadeaux. Alors, tournons dans nos Bibles. Je vous invite à tourner dans Matthieu. Dans Matthieu, au chapitre 2. Je viens d'apercevoir que ça va me prendre mes lunettes. Parce que vous savez, Matthieu est le seul évangéliste qui nous réfère. Et là, le son, hein, Daniel, c'est pas drôle, là. À cette histoire de visiteurs, des visiteurs bien particuliers. Et il y a un autre évangéliste, Luc, qui nous parle de visiteurs, mais qui était d'autres types de visiteurs, on va en parler. Mais on regarde au chapitre 2, Matthieu nous raconte l'histoire de ces personnes qu'on réfère encore aujourd'hui à des rois. Il y a même une fête, hein, le 6 janvier, la fête des rois. Et là, il y en a des fois, ils vont dire les rois mages. Et moi, j'ai grandi avec ça, c'est collé avec moi. Une fois que j'en parle, je le dis encore. Ah, les rois mages. Non, les mages. C'est collé, hein? La tradition, c'est vraiment fort. Et quand on grandit avec ça, ça colle. Ça colle longtemps. Alors, Matthieu, chapitre 2, verset 1. On lit. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'était arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. On saute au verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Béni soit sa parole. Seigneur, quel récit nous avons là ce matin qui nous parle de ces hommes qui ont voyagé de loin pour aller te voir. Seigneur, lorsque tu étais tout petit, et t'offrir des présents bien particuliers. Alors, Seigneur, ce matin, ouvre nos cœurs et fais-nous saisir, Seigneur, ce que tu veux nous dire à chacun de nous, comme Église, comme Assemblée et individuellement. Parle-nous, Seigneur. Béni soit ta parole. Béni soit ton Fils Jésus. Amen. Alors, vous savez, c'est un récit qui est très connu, de plusieurs cultures et qui a fait l'objet de toutes sortes d'interprétations, d'illustrations même. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on a tellement vu des images qui nous parlent de cette histoire de mages, même qu'on les appelle des rois, qui seraient venus à chameau, mais la plupart des images montrent des dromadaires, hein, parce qu'on sait, un dromadaire, ça a juste une bosse. On les voit soit à chameau, à dromadaire, et on les voit arriver au lieu de la crèche. On les voit arriver, présenter leur offrande, leur présent à ce petit enfant qui est couché dans la mangeoire, dans la crèche. Et également, on les voit sous toutes formes, toutes sortes d'habits avec des couronnes, pas de couronnes, etc., etc. Et moi j'ai des souvenirs de ça, là. J'avais les petites figurines qu'on avait avec la crèche sous l'arbre. Et puis là, je n'avais pas le droit d'y retoucher avant le 6 janvier. Il ne pouvait pas arriver avant le 6. C'est que là, il était loin en dessous de l'arbre. Il fallait même les cacher. Et puis là, hop, là, les rois sortaient. Et là, j'étais content. Là, ma mère me disait, là, tu peux aller les prendre puis tu peux les mettre à côté du petit Jésus pour aller porter des cadeaux. Ce folklore-là, je dirais, et toutes ces traditions ont modelé notre façon de percevoir le récit. Et je pense que ça vaut la peine de le revisiter ce matin. Et je pense qu'on va faire cela de façon, tu sais, on est quand même au début de l'année, le 3 janvier. On va rester assez ouvert d'esprit parce que ce n'est pas nécessairement des doctrines ni de deuxième ou de troisième tiroir qu'on va voir, mais peut-être de porter un regard sur, justement, quelques précisions dans le texte et nous amener à la question des cadeaux. Alors, on mentionne qu'ils étaient souvent trois, hein? C'est un peu normal parce qu'on mentionne trois cadeaux. On ne sait pas, il aurait pu peut-être être deux, il aurait pu peut-être être cinq. Mais on ne sait pas. Peut-être que le lien avec trois cadeaux faisait qu'on les image, on les met en illustration avec trois. C'est sûr que, tu sais, s'il y était cinq, il y aurait probablement eu cinq cadeaux. Je ne sais pas, l'image qui se déplace, regardez, moi, je n'ai rien à y donner. Ça fait que peut-être c'était plus logique d'en mettre trois. Est-ce que c'était des rois? Alors, le texte de Matthieu ne nous dit pas que c'est des rois. Mais il y a un autre texte qui nous amène une influence également, un texte biblique qui amène des parallèles. Alors, je vous invite à tourner dans Ésaïe, chapitre 60. Ésaïe, chapitre 60, dans lesquels le prophète nous donne justement un récit où, lorsque le Seigneur entrera dans sa gloire, en Israël, là, il va se passer des choses. Et peut-être que ces quelques versets-là ont influencé beaucoup le fait qu'il y avait des rois qui visitaient. Alors, 60, et je vous invite à aller, on va aller au verset 4. Verset 3, c'est-à-dire Ésaïe 60, verset 3. Et on lit, « Des nations marchent à ta lumière. » Et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Et dans ton cœur, et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madiens et d'éphas. Ils viendront tous de Séba, ils porteront l'or et l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. » Alors, on voit que dans ce texte, évidemment, il y aura des rois. Des rois se tourneront vers Israël. Des rois se tourneront vers le Seigneur qui règnera et lui apporteront toutes sortes de richesses. Et souvent, on a voulu attacher ce texte-là au récit des mages qui visitent. Et quelques commentateurs y mettent le lien entre le fait qu'ils pouvaient, c'était les rois, des rois mages. Alors, il y a toutes sortes de choses qui se sont mêlées. Pourquoi également on y met des Éthiopiens? On met des personnages qui viendraient d'Afrique. Il y a plusieurs raisons pour cela. L'origine de l'encens, de la myrrhe, fait que c'était souvent des biens qui provenaient de ces régions-là. Mais il y a toujours des possibilités que les biens étaient ailleurs aussi. On pouvait s'en procurer par des marchands qui traversaient l'Asie jusqu'au Profond Orient. Et c'est des choses qui pouvaient certainement se retrouver à l'Orient extrême. Donc, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut avoir mêlé ces images. On leur donne également des noms. Et là, il y a toute une histoire derrière les noms, et je vous épargne. Il y a tout un folklore derrière la question qu'on avait introduit des noms à ces rois qui étaient des gens qui, au Moyen Âge, on avait retrouvé une sépulture de trois personnes qui étaient supposément des rois. Les crânes étaient tous tournés vers Jérusalem. Elles avaient encore leurs yeux et tout ça. Et c'était les trois mages qui étaient là à ce moment-là, et ils avaient des noms aux sépultures, et etc., etc. Donc, c'est toutes des choses qui ont été introduites dans le folklore. On a également aussi l'adoration de Marie, parce que lorsqu'ils entrent dans la maison, ils voient l'enfant et sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Alors, on utilise souvent ce verset-là pour dire, « Tu vois, regarde, il adore Marie. » Attention, parce que l'écrivain savait très bien que la personne qu'on met en premier est la plus importante. Donc, il voit l'enfant accompagné de sa mère. Ils se prosternèrent, ils adorèrent l'enfant. Alors, il y a toutes sortes de pièges dans cela. La question de l'étoile. Ah, j'en ai lu. C'était soit la comète de Halley ou... il y avait peut-être eu une supernova à ce moment-là. Et il y a même, il y a des astronomes là, qui recherchent les phénomènes qui auraient pu avoir lieu il y a 2000 ans, etc., etc. Mais c'est quand même assez difficile de lier ça à un phénomène. Quand je dis cosmique, c'est quelque chose qui est dans l'espace. Hein? Les étoiles que l'on voit le soir, c'est des astres cosmiques, si on peut dire, parce qu'ils sont dans le cosmos. Ce serait assez difficile que je vous dise, trouver une maison, trouver un lieu qui est juste en dessous de cette étoile-là. Tu sais, les étoiles qu'on connaît, là. OK? Va en dessous de l'étoile. Là, je ne sais pas, là, je check. À combien de kilomètres, là? C'est quoi la marge d'erreur je peux avoir en dessous d'une étoile? Parce que c'est très haut, là. Ça couvre une partie du globe, là. Tu sais, là, je pourrais toujours être 10 000 kilomètres plus loin, puis j'ai l'impression d'être encore en dessous. Alors, c'était quelque chose de différent qu'une étoile cosmique. Non seulement ça, elle se déplaçait parce qu'ils l'ont suivie, puis elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée au-dessus du lieu. Alors là, c'est assez difficile de lier ce qui est arrivé réellement à un phénomène cosmique que l'on connaît, auquel on est habitué. Et... il y a la fameuse visite de la crèche, la visite à Bethléem. Parce que Hérode leur dit, allez à Bethléem. Parce que là, moi, j'ai parlé à mes scribes, là, ils ont regardé ça, puis c'est Bethléem. Fait qu'allez là. OK? Mais quand ils sont sortis, ils ont vu l'étoile. Et l'étoile les a amenés, les a guidés. Est-ce que ça dit que l'étoile les a guidés jusqu'à Bethléem? Est-ce qu'ils sont allés dans une étable et un enfant dans la crèche? Parce que le terme de maison est introduit à ce moment-là. Et il y a le temps passé aussi. Parce que vous savez que la visite qu'ils ont faite, il y avait une fenêtre. Hein? Il y avait une fenêtre d'à peu près un mois et demi. Pour être exact, là, c'est 40 jours. Il y avait une fenêtre de 40 jours s'ils voulaient vraiment voir le roi des Juifs, dans l'étable, à la crèche. Il y avait une fenêtre de 40 jours. Là eux autres, ils parlent de 2 ans. Là. Hein? Et là, ils ont voyagé. Peut-être qu'ils ne sont pas partis tout de suite. On ne connaît pas ça. On ne connaît pas leur itinéraire. Mais il y avait 40 jours. Il fallait qu'ils ciblent sur cette période de 2 ans-là. Il y avait 40 jours, il fallait qu'ils soient là. Tournez dans Luc, s'il vous plaît. Tournez dans l'Évangile de Luc au chapitre 2. Je vous parlais tantôt que Matthieu était le seul qui racontait le récit des mages. Et Luc lui raconte le récit des bergers. C'est la visite des bergers. Mais ce n'est pas à ça que je veux vous amener. C'est le temps qu'ils ont passé là-bas. Alors, chapitre 2 et allez au verset 21. Visite des bergers. Et la consécration au temple. Alors, au verset 21, on lit. Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Verset 22, « Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, ces 30 jours, Lévitique 12, 4, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui était écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice deux tourterelles et deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Lorsqu'eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. » Donc, bon an mal an, 30 à 40 jours peut-être, qu'ils ont été à Bethléem, et là, oups, il faut s'en aller à Jérusalem, c'est la loi. On présente, et c'est là qu'on sait qu'à Jérusalem, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont rencontré des gens au temple. Et qu'on l'a, par la suite, quitté Jérusalem pour retourner en Galilée. Alors, ce serait difficile de concevoir la visite des mages à la crèche comme telle, compte tenu du fait qu'ils n'ont pas resté longtemps à Bethléem et que, en plus, après Jérusalem, ils ne sont pas retournés à Bethléem. Donc, tout ça pour dire que lorsqu'on lit le récit, il faut toujours être prudent par rapport à ce qu'on a été, aux conceptions auxquelles on a été exposés et souvent remplis de pièges. J'aimerais vous parler, moi, des visiteurs maintenant. Les visiteurs, on parle des mages et... Quand on y pense, c'est le roi de l'univers, le créateur du ciel et de la terre qui arrive et il se planifie deux visites. Parce que c'était le temps, là, d'avoir la fanfare, la parade, les feux d'artifice et tout et tout. Mais deux types de visiteurs. Luc nous raconte que des bergers ont été avertis par un ange pour aller visiter, aller se prosterner devant le roi. Des bergers, ce n'était pas là, la haute classe de Bethléem là, qu'il y avait là. On allait dire à des bergers, allez voir le roi, des bergers. Et ensuite, pour combler tout ça, des mages païens, loin de là, s'était fait avertir d'aller voir le roi des Juifs. Non, mais quand on y pense, c'est particulier. Et ça peut facilement représenter qu'est-ce que le Seigneur aussi, à qui le Seigneur s'adressait. Il est venu, hein? L'Évangile, c'est premièrement adressé aux Juifs. Et lorsque les Juifs ont dit, non, pas de ça, hein? Ils ont enlevé la poussière de leurs vêtements. Ils ont dit, on s'en va en voir d'autres. Ils sont allés voir le monde entier. Ce qu'on réfère aux païens, tout ce qui est non-juif, dans le fond. On se tourne vers les juifs et les grecs. L'Évangile annoncé à tous les peuples. Aux juifs en premier, les bergers qui étaient à Bethléem. Et ensuite, au monde entier, des mages. En Extrême-Orient. Mais comment ça se fait ça que des mages en Extrême-Orient étaient au courant de ça? Parce que là, ils ont vu une étoile, et là, cette étoile-là, là, ils savaient, pour une raison ou une autre, ils savaient qu'ils s'en allaient voir le roi des Juifs. Parce que c'est ce qu'ils ont dit à Hérode en arrivant. On s'en vient voir le roi des Juifs. C'est assez précis, là. Je ne sais pas la conversation qu'il pourrait avoir eu en Hérode, c'est comme, comment ça se fait ça que vous êtes au courant de ça, vous autres? On ne sait pas. Il y a des pistes. Il y a plusieurs experts en la matière qui ont émis différentes possibilités. Et la plus populaire est celle de l'histoire de Daniel. Daniel, oui, le Daniel... le Daniel à Babylone, environ 600 ans avant la naissance du Christ. Daniel à Babylone, que souvent on connaît l'histoire par rapport à ses trois amis qui ont été mis dans la fournaise, et Daniel dans la fosse aux lions, et Daniel qui interprète des rêves, des songes. Tournez avec moi, livre de Daniel. On va aller voir ça. Au chapitre 1. Daniel, chapitre 1, verset 17. Alors, vous savez, ça a été la destruction de Jérusalem. Judée est envahie par l'armée de Nabuchodonosor, l'empire de Babylone, qui prend captif. Il y a eu trois vagues d'exil. Et des Juifs sont amenés loin de là, en Orient, à Babylone, captifs comme esclaves et services, différents types de services, soit dans les palais, soit dans les maisons. Et Daniel, ainsi que ses trois amis, en faisaient partie. Verset 17, on lit, « Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. » Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Verset 19, « Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Mishaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. » Ils furent donc admis au service du roi. Verset 20, « Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. » Alors là, il y avait une longueur d'avance sur même toutes les autres mages. Hein? Les mages, les devins qui étaient au service du roi à Babylone. Déjà, nos quatre amis étaient supérieurs à eux et le roi en était fasciné. Et on sait ce qui est arrivé à un moment donné. Le roi a eu un songe terrible et il fait venir ses mages et ses devins. Puis, expliquez-moi ça! Et puis là, il n'y avait aucun qui était capable de donner l'interprétation. Et puis, et là, on dit, amène Daniel. Daniel, lui, il est bon. Et puis là, Daniel, il écoute ça. Et puis, ouais. Tu sais, c'est comme là, c'est pas le fun à interpréter, mais c'est parce que, tu sais, c'est le roi, là. Puis lui, là, il est sans pitié, là. Tu peux pas lui dire n'importe quoi. Et puis là, tu lui annonces qu'il va, comme perdre sa royauté, il va comme devenir comme une bête des champs, le poil va y pousser, les ongles, puis il va brouter l'herbe. Et puis là, tu vas être de même pendant un bon bout de temps. C'est pas le fun d'avoir annoncé, mais ça s'est réalisé. Écoutez, imaginez là, toutes les autres. Là. Et là, lui, en plus, il interprète le songe et ça se produit. Et puis, raison pour laquelle que ça fait que tu es le meilleur et tu vas être le boss des interpréteurs de songes, toi, là. Le boss des mages. Allez voir au chapitre 4. Toujours dans le livre de Daniel, chapitre 4. Comme je disais, c'est arrivé, le roi Nabuchodonosor, il est au champ, il broute avec les bœufs. Son fils le remplace, Belshazzar, et puis là, c'est le party. Il fait un festin. Et là, apparaît la main qui écrit sur le mur. Et là, encore une fois, fais venir les mages, les devins, interprétez-moi les mots qu'il y a sur le mur. Ça ne fonctionne pas. Fais venir Daniel, chapitre 4, verset 5. Il ne faut pas mêler les noms, hein, parce que là, on est avec le roi Belshazzar, mais là, il y a un autre nom qui est introduit dans le texte, qui est Belshazzar. Il y a des T dedans. Et là, on ne parle pas de la même personne. Verset 5. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Ça, c'est le roi Belshazzar qui parle. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions dont mon esprit me remplissait d'épouvante. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Allons vers les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les devins. Je leur dis le songe et ils n'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Et on lit au verset 11 du chapitre 5. Tournez avec moi au chapitre 5. Et là, il y a toute une discussion qui s'ensuit. Chapitre 5. « Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit d'un Dieu saint et du temps de ton père. On trouva chez lui des lumières de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nabuchodonosor, ton père, le roi, ton père, l'établit, chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. » Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur à la science, l'intelligence, faculté supérieure d'interpréter les songes, expliquer les énigmes, résoudre les questions difficiles, que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Et évidemment, Daniel est appelé et, encore une fois, Daniel annonce au nouveau roi que ouais, tu vas mourir à soir. C'est ce qui est arrivé. Alors, imaginez la réputation de Daniel parmi les magiciens, les astrologues, etc., etc. C'était pas n'importe qui. Et probablement, ces gens friands de sa science et de sa connaissance, il y a une possibilité que Daniel a dit, « En voulez-vous une bonne? Moi, vous en comptez une, moi. » Il dit, à un moment donné, parce que vous voyez, Daniel était un contemporain de prophète Jérémie et savait bien les choses qui allaient arriver et le royaume messianique qui s'en vient. Et il leur disait, il leur a probablement expliqué qu'il y avait un roi qui s'en venait et qui allait être à Jérusalem, le roi des Juifs. Et ça en pouvait être un, « Watchez bien, il va avoir un signe. » Et là, ça se peut, hein, mais c'est 500 ans. Mais eux autres, les astrologues, là, ils sont forts dans les affaires-là. L'ésotérisme, là, d'une génération à l'autre, là, ils préservent ça dans leur rouleau, puis ils surveillent. Puis à un moment donné, c'est arrivé. Au temps donné, Dieu a donné le signe, et évidemment, il y a des mages qui ont dit, « Hey, sors les vieux rouleaux! » D'après moi, ça ressemble à une histoire qu'on a entendue, ça. Et voilà, la prophétie qui s'accomplit, et ils partent. C'est une des explications qui est les plus retenues. Ça peut être autre chose. Alors, on en vient à la question de ce qu'ils ont offert. Parce qu'ils sont partis en voyage et ils ramènent, encore une fois, des cadeaux. Et peut-être même, étant connaissants des prophéties, et peut-être même éduqués sur ce qui avait été écrit dans Ésaïe, ils se disaient, écoute, ils amènent des chameaux, ils vont amener de l'or puis de l'encens. En tout cas, c'est ce qu'ils ont amené. Ils ont amené de l'or et de l'encens. Et c'est des beaux cadeaux. C'est des choses, c'est très précieux. Là, je ne pense pas qu'ils ont amené de l'or arrangé comme ça. Mais imaginez arriver avec de l'or, une petite famille toute simple, pas trop d'argent. Et là, c'était un cadeau digne des rois, parce que les présents qu'on amenait au roi, c'était pas n'importe quoi. Et là, on amène de l'or. Et c'est intéressant qu'on amène de l'or, parce qu'il y a toutes sortes de significations qui ont été données autour de ça, mais pourquoi de l'or? Et là, on pourrait se lancer sur toutes sortes de possibilités. Mais l'or, évidemment, c'est précieux. Et ce qui nous a été donné, c'est très précieux. C'est précieux le cadeau qu'on a eu. Le cadeau que Dieu a fait à l'humanité, là, C'est précieux, c'est plus précieux que l'or. Mais on peut le symboliser, hein, avec cet or-là. Et je me demandais, mais pourquoi pas, tu sais, quand on parle de l'or, c'est précieux, mais il y a les diamants. Les diamants, c'est précieux. Mais l'image de l'or est encore plus intéressante. Parce que vous savez, un diamant, quand il le trouve à l'état brut, il polisse. Et puis, c'est comme ça. S'il y a des impuretés dedans, c'est permanent. Tu ne peux pas faire fondre un diamant pour le refaire recouler dans une autre forme, là, puis que c'est un nouveau diamant, puis enlever les impuretés. Si les impuretés sont dedans, c'est comme ça. Là, faut peut-être tu le tailles pour enlever la petite impureté, là, tu as des petits morceaux. Mais l'or, c'est différent. L'or brut, il est plein d'impuretés. Mais là, on peut le faire fondre. Et puis là, il y a un procédé, hein, pour tout retirer, les différents métaux qui sont attachés. Et là, on arrive à une première étape où là, il arrive avec du 3 carats, puis du 5 carats, puis du 10, puis du 14, et puis là, du 24 carats. Tu sais, c'est un processus. C'est un processus de purification. Puis je vais y en venir tantôt. L'or, précieux à nos yeux, on dirait qu'on a l'œil aiguisé pour trouver ça beau, hein? Les femmes l'aiment mieux en forme d'anneau, avec des brillants dessus, mais c'est quelque chose à laquelle on peut s'identifier en termes de travail. L'or qui se modèle, l'or qui se façonne, l'or qui est fondu et repurifié et retravaillé. L'encens. La bonne odeur. C'est pas tout le monde qui aime l'encens. Et l'odeur que le croyant peut avoir différentes senteurs aussi. Et je m'en de tourner dans 2 Corinthiens. C'est un texte qu'on connaît bien. 2 Corinthiens, chapitre 2. Verset 15. Si on veut s'identifier à ces cadeaux-là, comment s'identifier à l'encens? Si on veut être un cadeau qui a une odeur particulière, regardons ici qu'est-ce que l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Donc, on est une odeur pour tout le monde. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Comme je mentionnais, ce n'est pas tout le monde qui aime l'encens. Alors, quelle sorte d'odeur est-ce qu'on dégage? Est-ce qu'on en dégage? Ça arrive que oui, hein? Mais pensons, soyons conscients, soyons tous conscients de quelle façon on veut propager cette odeur-là, cet encens, ce parfum qui parfois peut être très désagréable à un et agréable à l'autre. Alors, soyons conscients de cette possibilité-là. Et le troisième cadeau, c'est un peu pour moi un peu comme l'intrus dans les trois, la myrrhe. Bon, là, j'ai mis un tas de myrrhe à l'état brut. Parce que la myrrhe, c'est comme une résine. C'est un extrait de l'arbre de myrrhe. Et puis, c'est comme une petite résine. Et puis là, on la transforme principalement pour faire des huiles et des aromates. À son état brut, semble-t-il, moi j'en ai jamais manipulé, mais on m'a dit que c'était très, très amer. C'est pas agréable du tout. Okay? L'or est agréable, généralement l'encens est agréable, mais la myrrhe comme telle, brute, c'est pas agréable. Mais lorsqu'elle est transformée en aromate, là c'est différent. On s'en servait beaucoup pour les embaumements. les linceuls, on les trempait dans des aromates de myrrhe et ça rendait le corps du défunt plus agréable pour la préservation également, et même que c'était pour la préservation. Et les Égyptiens avaient compris ça avec certains procédés pour l'embaumement des pharaons et tout cela, pour préserver la peau, les tissus, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut y voir? Qu'est-ce qu'on peut y voir dans cette symbolique-là? Et là, je me disais, pourquoi la myrrhe n'est pas mentionnée dans Ésaïe? Il n'y amène pas de la myrrhe lorsque le Christ sera dans sa gloire à Jérusalem. Alors, ce qu'on veut y voir, fort probablement à travers ce symbole, c'est l'aspect des souffrances, l'aspect qui va l'amener à sa mort, l'aspect qui sera enterré et qu'il ressuscitera, que son corps sera préservé de la mort éternelle et qu'il sera ramené à la vie. Moi, j'aime bien voir l'aspect des souffrances parce que si je m'identifie à l'or, si je m'identifie à l'encens, je m'identifie à la myrrhe comme étant les souffrances, parce que être un disciple du Seigneur, ce n'est pas une marche dans le parc. Ça amène parfois son lot de souffrances et de désagréments. Et moi, j'y vois l'aspect de la myrrhe dans ça, qu'il faut comprendre que c'est quelque chose de décider de suivre Christ. Et il y en a qui paient le prix de leur vie aujourd'hui pour cela. Ici, c'est plus peut-être l'indifférence, la moquerie, peut-être même se faire ridiculiser. C'est très commun. Alors, il faut comprendre que ça fait partie de la vie chrétienne. Et j'aimerais aussi regarder l'aspect du récit lorsque Hérode apprend la nouvelle. Hérode apprend la nouvelle qu'un roi est né et c'est le roi des Juifs. Parce que là, lui, là, il apprend là, que c'est comme si c'est vrai, moi je perds ma job. Ce n'est pas des bonnes nouvelles pour lui. Et tout le palais était troublé et ça avait une répercussion même dans toute Jérusalem. Et là, je regarde ça et je me dis, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment comme ça que lorsque je marchais dans ce monde sans Christ, sans Dieu, et que j'ai appris la nouvelle qu'il y avait un roi qui régnait, qu'il y avait un Dieu souverain pour lequel j'allais rendre des comptes lorsque j'allais mourir, j'étais troublé, comme Hérode, comme le peuple à Jérusalem. Et là, je me disais, wow! Il faut vraiment que je fasse quelque chose avec ça. Moi, ça me troublait. Ça me troublait de savoir que, oui, il allait y avoir une justice. Et si vous êtes ici ce matin, et que peut-être vous entendez ce message-là et vous dites, ouais, l'or, l'encens, ça va. La myrrhe, pas sûr. C'est une souffrance. C'est une souffrance d'avoir le poids sur la conscience, de savoir qu'un jour, on va être jugé pour cela. Et moi, je vous invite à accepter le cadeau. Accepter le cadeau ce matin de la pureté du cadeau, la pureté de Jésus-Christ, la bonté de Jésus-Christ, sa miséricorde qu'il a eue pour nous. Et devenez à votre tour un cadeau pour les autres, parce que lorsque vous recevrez ce cadeau-là, vous allez vouloir le partager. Et vous allez rentrer dans un processus de purification, de sanctification. Comme on a chanté tantôt, le feu du fondeur, transforme-moi, façonne-moi, purifie-moi. Et parfois, elle est difficile à chanter, celle-là. Hein? Quand on y pense vraiment, là, un chant de prière. Alors, c'est pour moi, ce matin, ma prière pour vous, de devenir un cadeau agréable. L'or est agréable. L'encens est agréable. On peut être toutes sortes de cadeaux. On vise à être un beau cadeau. Hein, on essaye de tout être pareil aussi. Mais des fois, c'est plus comme ça. On a toutes sortes de cadeaux. On a beaucoup de différences, l'empaquetage, l'emballage. C'est la diversification. Des fois, quand on n'est pas un cadeau, c'est pas trop beau. Quelle sorte de cadeau on veut être? Parfois, c'est mieux emballé que ça, mais c'est comme, c'est ordinaire. Ça manque de vie. Ça manque d'odeur. Hein, si vous voyez ça en dessous de l'arbre, là, c'est pas trop excitant. Hein? C'est des cadeaux pareils. Mais, qu'est-ce qu'on veut être? Agréable. Agréable. Moi, c'est le mot que j'aimerais que vous reteniez ce matin. On a un Sauveur qui est agréable. On a un Dieu qui est très agréable. Soyons agréables. On est réconcilié avec Dieu, on est réconcilié avec son peuple. Soyons agréables, afin que les païens, hein, nous que nous étions, nous soyons une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit, des beaux petits cadeaux en or, transformés, et pouvoir répandre cette bonne odeur et être agréable à notre prochain. Alors, on va se laisser avec ça ce matin. Pensons tous à être agréables, à être des cadeaux on a toutes nos formes différentes, mais qu'on tend à être ces cadeaux d'or le plus pur possible, en se laissant transformer, renouveler par la puissance de son Saint-Esprit, ayant une odeur agréable et de comprendre également que la marche avec notre Seigneur, c'est un parcours parfois de souffrance qui nous transforme, qui nous amène à la sanctification. Alors, on va prendre une petite minute de prière avant de se laisser. Oui, Seigneur, merci encore une fois pour ce cadeau que tu nous as laissé, Seigneur, qui est ta parole. Parole vivante qui transforme nos cœurs. Alors, Seigneur, laisse-nous, Seigneur, être transformés à ton image, que tu nous purifies comme l'or est purifié, que nous soyons tous un parfum, une odeur agréable à nos frères et sœurs et au monde qui nous entoure, qui ont besoin d'entendre cette parole de vie qui transforme, qui change, qui sauve. Et oui, Seigneur, on connaît la réalité dans ce monde de ce que c'est appartenir. Et on veut te prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés et qui souffrent à cause qu'ils ont pris position pour toi, qu'ils ont réalisé qui tu étais, celui qui est venu en chair et en os, tout petit, inoffensif, dans cette crèche et qui a grandi en force, en sagesse, en puissance et qui s'est laissé clouer sur cette croix par les impies pour être enterré et ressuscité le troisième jour. Seigneur, oui, Seigneur, sauve des vies encore en 2016. C'est notre souhait, Seigneur. Et utilise-nous à cette grande entreprise qui est l'Église que tu bâtis. Alors, Seigneur, bénis ce temps de communion fraternelle que nous allons avoir et donne-nous de pouvoir s'encourager, s'édifier les uns les autres. C'est dans le beau et le puissant nom de Jésus-Christ. Amen.